France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, nos années radio de nuit. Épisode 3, Macha Béranger, la France au confessionnal. C'était l'époque d'avant Internet et c'est cela qui change tout. À ce moment-là, on ne pouvait pas taper dans un moteur de recherche des mots-clés comme solitude, suicide, sexe ou sexualité pour se renseigner sur ces thèmes. C'était aussi une époque où l'intimité était très peu partagée publiquement, sauf dans quelques rares endroits, comme par exemple le studio de Macha Béranger.
Allô ?
Allô, c'est Macha ?
Oui, bonsoir, qui est là ?
C'est Véronique.
Oui, Véronique.
Je voulais vous parler d'un problème.
Oui.
J'ai tenté de me suicider. Et bon, j'avais avalé un petit somnifère. Et malheureusement, disons, je ne sais pas encore si c'est malheureusement ou heureusement, une amie s'en est rendu compte. Je ne sais pas si vous connaissez le livre d'Albert Camus, L'étranger. C'est le personnage principal. Se rend compte des choses de la vie et tout. Il se rend compte de l'absurdité. Et c'est un petit peu ce qui se passait en moi. Bon, la vie, c'est, je sais pas, pour moi, c'était un peu comme un cauchemar.
Mais vous n'aimez rien très fort ?
Non, non, non.
Ni personne ?
Non.
Mais il y a bien quelque chose dont vous avez envie ?
Non, non, pas du tout.
Mais est-ce que vous avez eu peur de mourir vraiment ?
Non, pas du tout. Je peux dire que la mort ne me fait pas peur.
Elle vous fait pas peur ?
Non.
Oui.
Si je pouvais mourir demain, ça ne ferait rien.
Nos années Radio de Nuit est une série en 4 épisodes de Salle des Archives. Une proposition de Mathieu Garrigou-Lagrange, Delphine Lemaire et Lily Corner. Épisode 3 avec Marine Beccarelli.
Quand on pense à Radio de Nuit, on pense beaucoup à ces émissions de confession et notamment à l'émission de Macha et à la solitude des gens qui ont des problèmes et qui appellent parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils ont envie de se suicider. Ou voilà. Et avec cette voix de Macha très particulière, une voix qui a profondément marqué la Radio de Nuit en France.
Macha Béranger est née à Vichy en 1941. Cette date, couplée à ce lieu, fait bien sûr lever un sourcil. Son père, Georges Rion, travaillait alors dans l'administration pétainiste et avait même reçu la Francisque, cette décoration d'estime octroyée par le maréchal Pétain. Là où les choses se compliquent, c'est quand, à la fin de la guerre, il se voit remettre la médaille de la Résistance pour s'être engagé dans un réseau clandestin à partir de juillet 1942. Pas très facile donc de savoir exactement où se situe la famille Rion. Macha Rion, futur Béranger, adorait son père. Dans son autobiographie, elle insiste sur le grand résistant qu'il avait été, sans mentionner les raisons de sa présence à Vichy. Elle écrit « Je ne veux pas vous mentir, je ne suis pas issu d'un milieu pauvre, pas même modeste, mais pas trop riche, et surtout pas nouveau riche. Je viens d'une famille très ou parfois trop bourgeoise, avec ses principes et ses origines de la terre d'autrefois. » Fin de citation. Tel est le pédigré de celle à qui va se confier la France entière, une femme à chapeau et à voilette qui se rend au prix de Diane et dont les parents sont parfois reçus à des cocktails à l'Élysée, une grande bourgeoise du micro.
Eh bien, bonsoir, Macha Béranger avec vous jusqu'à 2h du matin.
Adolescente élevée en pension catholique, puis jeune fille aimant le théâtre, Macha Rion a commencé comme comédienne et joué dans des téléfilms comme Les Brigades du Tigre. En parallèle, elle écrivait des contes et s'imaginait les lire à la radio, ce pourquoi elle les a envoyés au directeur de France Inter de l'époque, Pierre Vienne, en 1977, qui a accepté de la rencontrer. Mais les contes n'ont pas intéressé le responsable de la station. Ce qui l'a attiré chez Macha, c'est la présence, la personnalité et la voix de cette mère de famille de 35 ans qui s'était créé un personnage de créature étonnante et entourée de mystères.
Qu'est-ce que vous pensez de votre voix ?
Comment voulez-vous que je vous réponde ? C'est très difficile parce que on ne sait jamais l'effet que l'on fait aux autres. Et heureusement d'ailleurs. Alors on finit par savoir au bout de quelques années parce qu'on reçoit du courrier, parce que les gens vous le disent. Ce que je pense de ma voix, je pense qu'elle est rassurante. Parce qu'elle est assez calme ou assez grave, je ne sais pas. Ou peut-être douce. Mais je ne saurais jamais l'impact qu'elle a sur les autres. Je n'aime pas les voix aiguës. Elles me font peur, elles m'inquiètent. parce que c'est pas rassurant. Et c'est tout ce que je peux dire sur les personnages. Que j'aime pas les gens qui crient trop fort, j'aime pas les voix aigrelettes. Elles font passer un esprit pointu. Les voix graves, on dit, on me l'a assez écrit, mon Dieu, qu'elles étaient porteuses de sensualité, mais ça peut être aussi... C'est le velouté de la vie, voilà.
Le 5 avril 1977, dans l'après-minuit, comme elle aimait bien le dire, Macha Béranger éteint pour la première fois les néons du studio 137 de la Maison de la Radio et allume sa petite lampe, une simple ampoule sous un abat-jour posée directement à côté d'elle.
Alors, Macha Béranger, c'est tout de même un drôle de métier que vous faites.
Oui, mais c'est un métier très passionnant.
Mais est-ce que c'est un métier, j'allais dire sérieux, entre guillemets?
Bien sûr que c'est sérieux, parce que, en fait, je parle avec des gens qui n'ont pas la possibilité de se confier, parce que leur vie est mouvementée, parce qu'ils n'ont pas de temps, et il n'y a personne pour les écouter. Et le soir, on peut parler de tout. C'est pas simplement des problèmes, mais des espoirs, des rêves, des bonheurs, des joies, bien sûr de certaines angoisses, parce qu'il y a beaucoup d'appels de gens un petit peu esselés. Et en plus, la nuit est tout à fait propice aux confidences. Et les gens se libèrent davantage que dans la journée.
Vous êtes une oreille, en quelque sorte.
Je suis une oreille, oui, peut-être. Mais je deviens une amie.
Vous donnez des conseils?
Vous savez, donner des conseils, c'est très, très... c'est très difficile. Je ne peux pas juger. Mais je fais la conversation, en fait. Je ne fais pas d'ordonnance. Je fais la conversation et je fais la tendresse.
Et est-ce que les gens cherchent à vous connaître?
Certains n'ont pas du tout envie de connaître le visage de la voix. Et certains, enfin beaucoup, viennent me voir au studio comme une amie que je suis.
Marine Beccarelli, vous êtes historienne, maîtresse de conférences à Paris 1 et documentariste sonore. Et on vous doit le livre « Micro de nuit, histoire de la radio nocturne en France » aux presses universitaires de Rennes. Un commentaire sur ces archives qu'on vient d'entendre.
Oui, donc Macha qui se présente comme une amie et qui fait la tendresse, qui est devenue effectivement une voix un petit peu symbole des naufragés de la nuit, des solitaires, et qui se vantait d'avoir autour d'elle cette famille des sans-sommeil, comme elle appelait ses auditeurs et ses auditrices. C'est pas la première en France à animer ce type d'émission, parce que on avait depuis 1975 sur Europe 1 la nuit Gonzague Saint-Brie qui animait une émission qui s'appelait Ligne ouverte, et c'était le même principe. C'était la première émission, on va dire, de confession nocturne sur les ondes.
Cette révolte, elle doit s'élever en vous.
Et avant Macha, il y avait quand même eu une émission de Ménie Grégoire sur RTL l'après-midi, dans laquelle Ménie recevait les appels plutôt des auditrices.
Ménie répond à vos appels téléphoniques.
Et une émission qui a été très importante dans la libération un petit peu de la parole des femmes qui se sont mis à parler de leurs problèmes de couple, leur vie avec leurs enfants, des questions de sexualité, de contraception, etc. À un moment aussi de bouleversement sociétal à ce moment-là.
C'est tout de même un drôle de métier que vous faites, dit le journaliste qui interroge Macha Béranger sur TF1 le 3 avril 1980 et qu'on vient d'entendre. On a l'impression qu'elle est vue comme un personnage un petit peu étrange.
Oui, elle devient une espèce d'entité, d'icône de la nuit, de femme, donc femme au chapeau. Elle apparaissait donc au début de son émission, c'est pas le cas. Quand on la voit à la télévision, elle a une coupe de cheveux normale. Mais très rapidement, elle renforce, on va dire, la construction de son personnage. Donc avec toujours un grand chapeau, beaucoup de bijoux, assez maquillée, du rouge à lèvres, etc. C'est une fumeuse, donc il y a sa voix aussi au fil du temps qui va changer. Puisqu'elle va, son émission, elle va l'animer pendant 29 ans la nuit sur France Inter, même s'il va avoir des petites interruptions par moment.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'elle-même avait un côté un peu louche, un peu interlope, qui justement collait complètement avec l'idée qu'on se fait du monde de la nuit?
Un petit peu, en tout cas, elle est bien rentrée dans cette figure effectivement un petit peu étrange. Et puis, elle est paradoxale, Macha Béranger, parce que quand on s'intéresse un petit peu aux coulisses en fait de son émission, qu'on interroge des gens qui ont travaillé avec elle, c'est quelqu'un qui était donc dans un rôle de confident, de bienveillance avec les auditeurs et les auditrices, mais qui visiblement, dans le travail, avec ses collaborateurs, était un peu un tyran. Elle était vraiment très dure, elle menaçait ses équipes, etc. Et elle avait elle-même des problèmes psychologiques importants. En fait, aussi, certainement, finalement, travailler la nuit, ça lui a pas fait du bien à cette dame à la voix chaude, parce que, en fait, elle a souffert de cette, à la différence de José Arthur, qui, vraisemblablement, dont on parlait dans le premier épisode, qui, pour lui, c'était un choix, il s'épanouissait dans la nuit, c'était un espace, son terrain de jeu. Elle en a fait son terrain de jeu, mais d'un côté, ça l'a aussi un petit peu atteint, la noirceur de la nuit, aussi les problèmes des autres. Voilà. Donc elle-même avait des problèmes.
En fait, elle était aussi à fleur de peau que ses auditeurs et que ses auditrices. Oui. C'est peut-être ça qui fonctionnait aussi très bien à l'antenne.
Oui, sans doute. Et elle était vraisemblablement touchée aussi par ce que racontaient les auditeurs. Mais elle avait elle-même une sensibilité assez exacerbée et une fragilité. Et donc, ça l'a rapprochée aussi de cette communauté des sans-sommeil.
Mon adrénaline, c'est la vie. Disait Masha Béranger. Est-ce qu'elle était toujours patiente avec les auditeurs et les auditrices qui l'appelaient ?
D'une manière générale, elle était relativement patiente, en tout cas dans ce qu'on entend. Par contre, visiblement, il y avait des gens qu'elle voulait pas forcément prendre au téléphone, et des gens qui étaient en difficulté, en détresse psychologique, qui appelaient régulièrement et qu'elle refusait de prendre. Et elle pouvait être très dur, mais ça s'entendait peut-être pas forcément à l'antenne, puisque quand on écoute, alors j'ai plus d'exemples en tête, peut-être que certaines fois elle mettait un peu court plus rapidement aux conversations, mais globalement, elle était dans son rôle, elle jouait son rôle, et en apparence voilà, de répondre et d'être patiente, mais dans la réalité c'était un peu plus compliqué.
Et avec son équipe à France Inter, alors ici dans la maison de la radio, on entend des témoignages oui. divers entre ceux qui aimaient bien travailler avec elle, puis ceux qui trouvaient que c'était plus difficile. Mais quand même, apparemment, il y avait des jours où elle était de très bonne humeur, et puis des jours où elle était de très mauvaise humeur aussi.
Oui, c'est ça. Visiblement, elle avait une humeur changeante et elle était assez crainte. En tout cas, elle était assez, autoritaire. Puis c'était une telle figure, je pense qu'elle impressionnait aussi ses équipes. C'était vraiment voilà cette diva de la nuit. Et donc parfois, certains soirs, elle n'avait pas forcément envie de faire l'émission. Donc il fallait aussi que ses équipes fassent une sorte d'accompagnement psychologique de celle qui, derrière, est censée accompagner les auditrices et les auditeurs qui vont mal.
Rapidement après le lancement de son émission, une communauté de ceux qu'elle appelle les sans-sommeil se forme autour de Masha Béranger. Certains se rencontrent d'ailleurs, un peu comme avec les petites annonces de Libé qui datent de la même période et sont porteuses du même caractère quasi magique. Rencontrer un autre sans-sommeil ou contacter quelqu'un par une petite annonce, c'est au fond un peu comme jouer au loto. On a l'espoir de faire tout d'un coup basculer sa vie. Les sans-sommeil créent des réseaux d'entraide, certains deviennent amis ou se marient entre eux, ce qui crée d'ailleurs un attachement très fort à l'émission. En 2006, au moment de l'arrêt du programme, après 29 années d'existence, ils se mobiliseront, ces sans-sommeil, pour tenter de la sauver, sans succès.
Masha sur France Inter de 0h30 à 3h du matin.
Vous avez peut-être envie ou besoin de parler. Alors rappelez-moi en direct sur notre ligne de nuit du 524 71 00. Je serai très heureuse de vous écouter et de partager toutes vos confidences. De minuit 30 à 3h du matin, au 524 71 00, c'est le standard du cœur et le micro de la confiance.
France Inter, écoutez la différence.
Oui. Allô Masha ?
Quand même assez mythique aussi comme publicité, non, Beccaré?
Oui, bien sûr. Et puis alors là, c'est la musique, la première musique du générique, qui était la bande originale d'un film de Billy Tiss, qui était un film érotique du photographe David Hamilton. Donc aussi, au moment du lancement de l'émission, en choisissant cette musique, il y avait sans doute une volonté de la part de la direction de France Inter, vraiment, d'assimiler cette voix grave, particulière, aussi de rajouter une connotation érotique. Plus tard, le générique qui va ensuite rester jusqu'à la fin, c'est la symphonie numéro 21 de Mozart, qui va rester le même. Mais en tout cas, voilà, qui pose le décor. Elle avait toujours cette voix qui invitait ses auditeurs à l'appeler, sa famille, et elle les écoutera avec tendresse et confiance, etc., et amitié, comme elle le dit. Et effectivement, dans cette notion de communauté, c'est vraiment important de rappeler que finalement, appeler l'émission pour parler à Masha, c'était une chose, mais la majorité des gens qui appelaient l'émission, dans le corpus d'émissions que j'ai étudié précisément, en fait, la majorité appelle aussi pour rentrer en contact avec quelqu'un, pour se faire des amis, ou pour faire des rencontres amoureuses, voire pour avoir, effectivement, ça peut être des choses très pratiques, mais aussi pour des raisons professionnelles. Dans les années 80-90, il y a vraiment une augmentation du nombre de personnes qui appellent parce qu'ils sont au chômage et parce qu'ils ont besoin de chercher du travail. Donc ça devient vraiment un lieu de rencontre, et Macha Béranger, c'est le trait d'union, c'est le lien entre ces gens de la nuit qui parfois souffrent et qui ont besoin d'être aidés. Et de la même façon, dans les lettres d'auditrices et d'auditeurs que Macha Béranger recevait, et pour une partie qui sont conservées aux Archives nationales, la majorité aussi des gens qui écrivaient à Macha écrivaient pour demander les contacts. Parce qu'en fait, si vous passiez à l'antenne de Macha, d'Allo Macha, vous pouviez annoncer « je vais laisser mes coordonnées hors antenne ». Donc l'équipe de Macha Béranger notait toutes les coordonnées des gens qui étaient intervenus. Et ensuite, des auditeurs et des auditrices qui avaient été touchés par tel ou tel témoignage et qui voulaient donner de l'aide, rentrer en contact avec ces personnes, appelaient la radio ou écrivaient une lettre à la radio pour avoir les coordonnées. Et donc de là, effectivement, des rencontres amicales, des mariages, des enfants qui naissent de ces unions, etc., etc.
Est-ce que vous diriez que c'était des solitaires qui appelaient Macha Béranger ?
Oui, alors parmi les émissions que j'ai étudiées, il y a environ 3/4 des gens qui appellent l'émission qui se déclarent comme célibataires. Et 1/4 en gros de personnes qui sont en couple, mariées ou en concubinage, etc. Donc c'est logique, hein, d'une certaine façon, les gens qui sont seuls la nuit, qui vont davantage ressentir la solitude parce qu'ils dorment seuls chez eux, donc qui vont être plus potentiellement sujet aux angoisses existentielles et avoir envie de rentrer en contact avec quelqu'un. Donc c'est davantage des solitaires, effectivement, des célibataires qui l'appelaient.
Et au-delà du fait que c'est une émission, en effet, avec un ton nouveau, est-ce que là encore, vous ne diriez pas, Marine Beccarelli, que c'est une émission qui accompagne un changement de la société française ?
Bah oui, bien sûr. Dans la deuxième moitié des années 70, on va avoir Macha Béranger, Gonzague Saint-Bric, l'animateur de l'émission du même type sur Europe 1, qui sont invités régulièrement dans des émissions de télévision pour parler du problème de la solitude ou des problèmes psychologiques auxquels sont confrontés les Français et d'où ça vient. Mais donc ça fait émerger en fait l'existence de souffrances individuelles.
Mais des souffrances qui existent aussi peut-être différemment d'avant, parce que les sociétés modernes sont des sociétés qui deviennent plus individualistes.
Bien sûr.
Il y a l'exode rural qui fait qu'on habite tout seul dans la grande ville, qu'on est moins dans la famille, puisque la famille devient aussi un endroit dont sort. Donc c'est tout ça aussi qui permet l'émergence de cette radio de nuit et de cette émission en particulier.
Effectivement, comme vous l'avez bien dit, c'est une individualisation plus grande, l'anonymat des grandes villes, etc. Et ce qui ressort beaucoup dans les témoignages au téléphone ou dans les lettres, c'est justement ce besoin, en fait, cette communication qui se perd, enfin qu'ils ont l'impression, ces contemporains-là, de voir des gens tous les jours, mais de n'être pas connectés avec les gens qu'ils croisent et d'avoir un besoin de communication. À la fois, les gens sont plus nombreux dans les grandes villes, etc., mais se retrouvent seuls. Donc, effectivement, ça fait partie de ça. Et ça s'inscrit aussi, c'est pas révolutionnant. Donc, je parlais du fait qu'avant Macha, donc il y avait Minnie Grégoire, mais vraiment plus pour les thématiques liées aux conditions de vie des femmes, etc. Mais, en fait, on peut remonter à l'invention de SOS Amitié en France, qui date de 1960 et qui répondait aussi à ce besoin avec les écoutants au téléphone qui écoutaient la solitude, les problèmes personnels de ces individus. Et là, ça sort de la stricte sphère privée qui était cantonnée avec SOS Amitié. Ça rend la chose publique, donc on en parle davantage, etc.
Souvenons-nous que Macha est venue à la radio par l'écriture et durant sa vie, elle a publié plusieurs ouvrages, par exemple « Le cœur dans l'oreille ». Elle y raconte ses appels dans la nuit et la situation de ceux qui la contactent. Ses auditeurs, elle les identifie selon plusieurs catégories. Les nouveaux tristes, les falos miso rétro, les allo macho, les grands-mères de minuit ou encore les deux côtés du mur, catégorie qui regroupe les anciens détenus. Elle raconte que bien souvent, ces sans-sommeil parlent de leurs espoirs déçus et de leurs histoires d'amour, la plupart du temps avortées. Des tragédies plus graves, il y en a aussi, comme c'est le cas avec ce routier.
J'étais militaire à l'époque, et puis, j'étais allé, je pour un petit peu vous raconter l'histoire du début. J'étais donc allé au cinéma avec des copains de l'armée. Et puis on regardait un film, c'était un film, je me rappelle même pas du film, ça je me rappelle pas. Par contre, la suite, je me rappelle bien, dans le sens où j'étais donc assis avec mes camarades, et puis il y avait des demoiselles à côté de nous. Et puis il y a eu des scènes un petit peu dures, et puis tout d'un coup, lors d'une scène un peu violente, il y a la demoiselle à côté de moi qui me prend la main.
Elle a eu peur.
Ah, ça c'était un peu...
Alors, elle a pris la main en réflexe, quoi.
Voilà, voilà. Alors elle s'est excusée. Et puis, le film continue. Et puis en fin de compte, moi j'ai ravancé ma main et puis j'ai pris sa main. Et puis fin du film, on s'est retrouvés à l'extérieur, elle, ses copines et puis moi, mes copains. On a dit, on va boire un verre ensemble. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Oui.
Et bon, elle s'appelait Brigitte. Je dis, elle s'appelait Brigitte. On s'est aimés comme des fous. Et puis... fin de l'armée, moi je suis parti à Berlin, on le savait, etc. On s'écrivait, et puis un beau jour à Berlin, j'avais plus de nouvelles, alors je me suis inquiété, etc. Et puis bon, j'avais pas son téléphone, j'avais son adresse, mais pas son téléphone. Et au bout de 4 mois, quand je suis rentré de Berlin,
oui,
je suis allé à Metz, j'avais son adresse, j'ai sonné chez ses parents, j'ai trouvé une mine déconfite. Elle avait été renversée par une voiture, elle était morte. Et je me suis jamais marié à cause de ça.
Ça nous a tellement marqué.
Et je la cherche toujours, et j'ai plein d'amis, des copines, des bonnes copines, partout en Europe, hein, vraiment partout en Europe.
Oui.
Et je la recherche toujours.
Donc elle est morte très jeune, alors.
Ouais, elle avait 18 ans, comme ça.
Une réaction sur cet extrait.
J'ai le souvenir d'une émission où quelqu'un qui était assez âgé, mais qui se souvient d'avoir assisté dans sa jeunesse. Il était en Angleterre, au bord d'une falaise, avec ses amis. Ils avaient bu de l'alcool et il y en a un qui est tombé, tombé de la falaise et qui voulait témoigner en fait des dangers aussi de l'alcool, prévenir les jeunes. Bon bref, donc toutes sortes d'expériences de vie qui sont racontées au fil des nuits et ces auditeurs qui viennent chercher ce réconfort, l'écoute et parfois potentiellement, je sais pas si c'est le cas pour ce routier, de rentrer en contact avec quelqu'un qui peut-être a vécu quelque chose de similaire, donc pour aussi se reconnaître et se sentir moins seul. Et vous évoquiez les catégories d'auditeurs de Macha Béranger, comme elle les définissait dans son livre. Il y avait beaucoup de détenus, de gens, de prisonniers qui ont écouté, parce que au moment où l'émission est apparue, ça coïncide avec le moment où les radios ont été autorisées en prison en France dans les cellules individuelles. Auparavant, il y avait des radios dans les salles communes, mais dans ces années, la deuxième moitié des années 70, on a autorisé dans les cellules. Et donc, il y a beaucoup de prisonniers qui se sont mis à écouter, en fait, la nuit, Macha Béranger, et dans les courriers d'auditeurs que j'ai étudiés, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages aussi qui racontent, en fait, en tant que détenus à l'intérieur de la prison, cette émission, malgré tout, même s'il y avait des choses dures, c'était une fenêtre ouverte quand même vers le monde extérieur et vers la liberté. Et certains qui écrivaient des poèmes à Macha, qui disaient, voilà, Macha, grâce à vous, en fait, j'ai tenu dans ces années d'incarcération parce que c'était votre voix, c'était un peu le fil qui me reliait à l'extérieur.
En 1982, une ambulancière au chômage passe à l'antenne d'Allo Macha. Elle explique qu'elle est prête à tout pour retrouver du travail. Elle précise même qu'elle acceptera n'importe quoi, pourvu qu'elle puisse manger. Certains appels visent donc à trouver un emploi, mais parfois ces appels à caractère professionnel ne sont pas aussi directs. C'est le cas avec ce garçon de 17 ans, animateur radio à Oyonnax, dont on sent qu'il aimerait bien taper dans l'œil de la star des Nuits d'Inter.
Je pars quand même du principe où il faut un minimum de professionnalisme, donc je suis naturel,
oui,
tout en mettant le professionnalisme avec.
Mais il faut des années pour être naturel devant un micro.
Il faut des années, oui. J'ai encore pas excédé tout à fait, mais je compte persister.
Oui, mais vous avez déjà pas mal d'années de... Vous avez 4 ans déjà de radio.
4 ans de radio, oui. Et puis je commence à rencontrer des personnalités de la télévision.
Oui.
J'ai rencontré récemment Christophe de Chavannes, entre autres.
Oui, je connais bien Christophe. Il fut à France Inter.
Oui,
bien sûr, oui. Il faisait une émission la nuit, il faisait des permanentes, il était assistant.
Mais la nuit, c'est ça qui est extraordinaire. extraordinaire parce que les gens communiquent beaucoup plus facilement.
Et oui.
C'est vrai, hein, j'ai eu l'occasion de faire des émissions nocturnes.
Oui.
Et j'ai remarqué que les gens appelaient beaucoup plus facilement pour discuter, tout simplement, parler.
Donc Sébastien, vous êtes... Alors je vais vous souhaiter plein de belles radios.
Mais je l'espère, oui, aussi.
Oui.
Et puis, y arriver un jour.
Mais vous n'avez pas la voix d'un jeune homme de 17 ans, c'est vrai que vous avez une voix plus mûre. Hein.
Ah bon?
Oui.
C'est la réflexion que l'on me fait souvent, oui.
Oui.
Je pense que pour faire la radio, de toute façon, il faut avoir une voix qui passe déjà, surtout à 17 ans, c'est
oui, c'est pas tellement les yeux hein, qui comptent, c'est vraiment là.
Oui, oui, c'est sûr, oui.
Oui,
c'est pas la télévision,
avoir une
là,
voix.
C'est la voix, et puis...
Oui, oui, mais vous ferez peut-être de la télévision un jour.
Pourquoi pas.
Vous savez, tous les gens qui sont à la télévision ont fait de la radio ou font de la radio.
Il faut commencer par là.
Oui, je l'aime bien cette archive parce qu'ils parlent aussi ensemble de la radio de nuit. Et puis comme vous disiez, il espère sans doute être remarqué par Macha. Il devait être très flatté que Macha lui dise déjà qu'il avait une voix qui faisait plus que son âge puisqu'il n'avait que 17 ans, animateur sur une radio de Yona. Je ne sais pas si ce jeune homme, par la suite, a eu une carrière davantage à la radio ou à la télévision, comme il semblait en rêver à l'époque. Mais effectivement, c'est important aussi de dire que les gens qui appelaient, c'était pas tout n'était pas noir. Il y avait aussi des gens qui appelaient pour dire qu'ils étaient heureux, pour raconter une anecdote joyeuse. Et là, cette conversation, elle était tout à fait joyeuse. Et quand on consulte ces archives, c'est vrai que c'est une source incroyable sur l'histoire de la société. Et bien sûr, tout le monde n'appelait pas cette émission, mais il y a quand même une variété dans les milieux professionnels, les âges, les origines géographiques des personnes qui appellent. C'est vraiment une cartographie, enfin un miroir de la France des années de 1977 à 2006.
La dernière d'Allô Macha, elle a eu lieu le 30 juin 2006. D'autres émissions depuis ont pris en charge l'intimité. On pense par exemple ici sur France Culture au Pied sur Terre ou aux très nombreux podcasts sur le genre et sur la sexualité. Qu'est-ce qui a changé dans l'intime ou dans la façon d'en parler aujourd'hui?
Effectivement, c'est plus prise en charge par des émissions de témoignages type Les Pieds sur Terre où on a la voix des intervenants qui ne sont pas forcément dans une conversation avec l'interviewé ou la figure de l'animatrice telle qu'elle était Macha Béranger.
Donc les émissions de type Allô Macha, ça a vraiment disparu?
Non, ça n'a pas disparu. Il y en a encore sur Europe 1 et RTL en soirée, en début de nuit. Sur RTL aujourd'hui, c'est Caroline Dublanche. Donc c'était une ancienne psychologue de formation qui a commencé sur Europe 1 à la fin des années 90 et son émission marchant toujours bien, elle a été finalement débauchée par RTL et maintenant sur Europe 1 il y a toujours une émission du même type. Il y a quand même donc encore un public pour ces émissions. Donc ça n'a pas totalement disparu, mais sans doute que l'âge des personnes qui écoutent et qui appellent est vieillissant.
Je vous dis au revoir. À très vite, bientôt. Ailleurs, ailleurs, ailleurs. Et pour la dernière fois, je vous annonce qu'il est 1h du matin et que vous écoutez France Inter.
Macha Béranger détestait la vulgarité à l'antenne comme dans la vie. Elle n'aimait pas non plus la familiarité, le tutoiement jamais à l'antenne, le vouvoiement lui semblait beaucoup plus élégant. Elle aura été à des années-lumière de la génération de libre antenne qui allait suivre les Doc, Difool, Super Nana ou encore Maurice. Mais en quoi la nouvelle jeunesse de ces années 90 est-elle différente de celle qui appelait Macha au téléphone? Quelles en sont les aspirations? Où réside la modernité de ces émissions de radio? C'est ce que nous allons tenter de voir dans le quatrième et dernier épisode.